Bienvenue dans Basculement, le podcast du laboratoire d'anthropologie prospective, de son petit nom le LAP, où tous les mois nous partageons un thé avec un anthropologue.
Je suis Meggy, je suis anthropologue et je travaille sur les mondes virtuels et les sociabilités numériques.
Je suis Bénédicte, je suis moi aussi anthropologue et je travaille sur les classes dominantes.
Pour le premier épisode de cette deuxième saison, nous avons reçu Julie Hermès, docteur en anthropologie. Nous avons parlé de sa recherche de thèse sur les hauts plateaux du Guatemala, où elle était confrontée aux traces du passage de l'ouragan Stan, visible sur les paysages mais aussi omniprésent dans les discours. Elle nous a ensuite emmenés dans ses terrains suivants, où ses recherches sur la résilience agricole ont amené à formuler des projets de recherche-action en collaboration avec les acteurs de ces terrains. Je vous souhaite une excellente écoute.
Un lever de soleil à Sainte-Martine. Il est 5h30 du matin. Depuis le toit plat de la maison de Juana, une vue panoramique de Sainte-Martine s'offre à moi. À quelques jours de mon retour en Belgique, je m'imprègne avec émotion de ce paysage dont les codes m'ont été patiemment enseignés par mes informateurs devenus aujourd'hui, pour la plupart des amis. Un manteau de brume recouvre le centre de la municipalité. Le soleil illumine de ses premiers rayons les versants de Tuislar, au loin. Le sommet du volcan Chicabal. La brume se retire et laisse apparaître à l'est d'abord couleur et contraste. La terre est sèche et aride d'une pluie absente qui ne tardera pas à venir. Le maïs a été récolté les mois précédents. Il sera ressemé dans près d'un mois en fonction de l'ensoleillement des terrains. Depuis la terrasse, je vois des hommes armés de leurs houes s'éloigner vers leurs champs au son de leurs bottes en caoutchouc. Certains n'en portent qu'un mécapal. Ils s'en vont probablement chercher du bois de cuisson dans la forêt, dans la montagne. Les femmes, penchées sur les bassins d'eau, pila, lavent le linge. Cordes, murets, fils de fer ou tchour en sont peu à peu couverts. Je ferme les yeux. Les bruits et les odeurs de Sainte-Martine qui s'éveillent m'atteignent. Ils me sont familiers. Non loin de mon observateur, le moulin à pétrole broie en pétardant le maïs destiné aux tortillas ou aux tamales. Les mains des femmes, paume contre paume, enfantent, par de légers applaudissements, les premières tortillas de la journée, dont la rondeur égale la lune lorsqu'elle est pleine. Plus tard, accompagnées de brouillés et d'haricots noirs, les tortillas seront apportées aux champs pour nourrir les hommes. Les haches coupent déjà le bois. L'odeur du feu me parvient avec celle des tortillas. Ces arômes se mélangent aux odeurs de la terre humidifiée par la rosée et aux effluves des engrais organiques qui hérissent les narines. Les volailles piaillent nonchalamment dans les cours ou sur les toits. Alors que je gratte avec un certain automatisme les piqûres de puces ennemies de mes nuits, leur propriétaire canin aboie au loin. Les pick-up démarrent au quart de tour dans les ruelles. Des jeunes en uniforme se dirigent vers le centre pour prendre un microbus qui les emmènera à proximité de leur collège dans la ville de Quetzaltenango. Des baffles diffusent des chants évangéliques. Le soleil progresse vers la verticale. Il éclaire maintenant une partie de la vallée. Les maisons. La route qui descend du nord au sud vers la côte et où circulent déjà les premiers microbus et les camions. Le cimetière qui, à l'image d'une reproduction colorée miniature des demeures des vivants, gagne de son éclat les façades délavées de la municipalité. Le parque central, lieu transitoire des femmes pour les échanges marchands dominés par les flâneries de la gente masculine. Les volets métalliques se lèvent au rythme du réveil des commerçants. Des magasins vendent déjà des produits alimentaires de base et les sucreries réclamées par les enfants. Juan ouvre à l'aube son laboratoire de photos aujourd'hui. Mercredi est jour d'envoi des colis pour les États-Unis. Épouses, maîtresses, enfants, fiancés défileront dans leurs plus beaux apparats, se figer dans les clichés instantanés. Francisco a préparé son attirail de fertilisants, d'insecticides, d'herbicides et de fongicides. Poudre, graines et liquides combinés en phosphore, potassium et nitrogène sont proposés à son étal pour améliorer les productions agricoles. Note de terrain, février 2009. Alors moi je suis sociologue, j'ai fait une formation en sociologie. À l'époque à Louvain il n'y avait qu'un diplôme d'études spécialisées en anthropologie. et j'étais familiarisée à l'ethnographie. Donc, en bonne sociologue, j'ai surtout été initiée à mener des entretiens compréhensifs, à avoir de solides, une solide approche théorique, je dirais, des phénomènes sociaux. Et en faisant une première recherche, en fait, à Saint-Louis, aux facultés universitaires Saint-Louis, j'ai été initiée à l'ethnographie. Et là, pour moi, ça a été un vrai basculement, si je peux reprendre ce terme qui est familier à cette émission, à ce podcast. Un basculement de laisser tout mon être, par ma présence, par les rencontres, non pas seulement formelles, mais informelles aussi, m'imprégner de mes terrains. Et à l'époque, c'était dans les logements sociaux bruxellois. Donc, je travaillais sur les logements sociaux bruxellois. J'ai fait une recherche aussi sur le sans-abrisme et des femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'était mes toutes premières recherches avec cette étiquette de sociologue à l'époque. Et donc, du coup, avec cette sensibilité qui naissait, qui grandissait sur la pratique de terrain ethnographique. Et donc là, j'ai fait un diplôme d'études approfondies à l'époque, socio-anthropologie. Et qui m'a fait faire un premier terrain au Guatemala, qui était un pays dans lequel j'avais déjà séjourné après ma réto, en fait, dans lequel j'avais surtout connu, j'avais vécu à la capitale, et j'avais pas mal baroudé, mais j'avais été souvent dans l'altiplano, mais je n'y avais pas séjourné longuement. Et donc ça s'était imposé à moi parce que suite à un cours que j'avais suivi avec Pierre-Joseph Laurent sur les questions de pentecôtisme au Burkina Faso, ben pour moi, c'était clair qu'au Guatemala résonnaient ces questions d'expansion des mouvements évangéliques au Guatemala. Alors, concours de circonstances, donc à l'époque, j'étais assistante ici, en anthropologie, et mon premier terrain que j'ai réalisé en tant qu'assistante, donc j'ai fait le DEA, puis j'ai postulé en tant qu'assistante, et donc j'ai eu ce poste-là. En fait, 6 mois avant mon premier travail de terrain, il y a l'ouragan Stan qui affecte l'Amérique centrale, dont le Guatemala. Et moi, très naïvement, je me suis dit que j'avais regardé un peu les coupures de presse, j'avais des contacts avec des personnes localement via des associations belges qui étaient implantées là-bas. Et voilà, donc on me faisait part de bilans agricoles néfastes, que les greniers à grains se vidaient pour l'année suivante, avaient été vidés parce que les récoltes avaient toutes été anéanties suite au passage de l'ouragan. Mais voilà, donc je me suis dit que je pouvais poursuivre ce travail de terrain sur les questions d'expansion évangélique dans l'altiplano. Ce n'est qu'arrivé là-bas que j'ai réalisé que en fait l'ampleur des dégâts était bien plus importante que des dégâts matériels. Les dégâts matériels étaient toujours, et 6 mois plus tard, étaient encore importants, même si des arbres avaient peu à peu couvert les gros glissements de terrain qui avaient anéanti une partie de la municipalité. Mais ce qui en fait était très marquant, c'est que les personnes venaient sans cesse me parler de l'ouragan, du passage, de ce traumatisme en fait. Et comme je l'explique dans mon livre, je fais en fait ce travail terrain 6 mois plus tard après le passage de l'ouragan, mais aussi au début de la nouvelle saison des pluies. Et donc il y a vraiment cette crainte que ça peut revenir, ça peut recommencer, alors qu'ils étaient à peine dans une phase de reconstruction. Donc ce terrain, j'ai accepté en fait de me laisser imprégner par ce qui faisait enjeu localement, et j'ai accepté juste de m'asseoir et d'écouter ce qui est leur peur de cette saison cyclonique qui allait se reprendre, écouter en fait, et juste accueillir en fait ces paroles de détresse, de ce qu'ils avaient pu vivre, d'angoisse. De jeunes partis en migration suite aussi à ces événements-là, de tout le basculement qui s'était opéré en fait suite à cet événement qu'on peut situer historiquement dans le temps et qui en fait est bien plus, c'est ce que j'essaye de dépeindre dans le livre, en fait c'est une histoire d'un processus qui, de tout un processus qui s'est construit bien avant le passage de l'ouragan, mais aussi qui continue à se poursuivre après. Et donc, pas des fins thérapeutiques. Donc, mon écoute était vraiment une écoute d'anthropologue. J'ai pu prendre place au sein de cette communauté qui avait juste aussi le besoin de pouvoir être écoutée sur ce qui venait d'avoir lieu. Même si, voilà, j'étais sans cesse questionnée sur les possibles aides de coopération ou autres. Et très vite, je pouvais dire, non, c'était pas mon rôle, c'était pas ma présence. Moi, j'étais anthropologue, j'étais là pour essayer avec eux, de comprendre ce qui s'était passé et comment est-ce qu'ils pouvaient vivre encore avec cet événement-là.
Et après la thèse, parce que mine de rien, ça fait quelques années que voilà, cette monographie a pris vie sous forme d'écrit dont on va parler dans les prochaines minutes. Mais depuis, en fait, tu as baraudé à ta manière. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que ton parcours est inspirant justement sur le côté de toutes ces portes qui s'ouvrent et de toutes ces possibilités, aussi des projets que tu mènes en collaboration avec l'Europe, en collaboration avec d'autres acteurs sociaux. Et je trouverais que ce serait intéressant qu'on t'entende à ce propos.
Donc en fait, en travaillant au Guatemala, j'ai vraiment mis l'accent sur les facteurs de vulnérabilité. Comment est-ce qu'une communauté peut, par la construction de risques historiques, de facteurs économiques et autres multiples, comment une certaine forme de précarité peut menacer lors d'un événement météorologique, là en l'occurrence, mais aussi face à des changements économiques importants, notamment qui provoquent un taux de migration très important de cette communauté, etc., vers les États-Unis essentiellement, et le Mexique entre autres. Et en terminant, donc j'ai eu la chance, j'ai fait beaucoup de terrain, parce que j'ai après mon mandat aspirant, j'étais aspirante FNRS, et donc j'ai résidé pendant 2 ans et demi sur place. Et en terminant ce projet de thèse, pour moi, c'était devenu... il fallait que j'ouvre la porte vers d'autres horizons, pas seulement géographiques, mais en tout cas thématiques sur... ma croyance était qu'il était possible aujourd'hui que la petite paysannerie, les systèmes agraires pouvaient se développer aussi autrement et non pas être seulement des conséquences d'une globalisation effrénée qui entraîne notamment la nécessité de produire de production agricole, parce qu'on est vraiment dans un milieu agricole, d'autres toujours plus encore. Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment une communauté qui est prise dans une insécurité financière qui les encourage aussi à produire énormément dans des terres qui sont en fait extrêmement friables, ce sont des terres volcaniques, sur très peu de lopins de terre, parce qu'historiquement, ils ont été vraiment repoussés dans le haut des montagnes, parce que les paliers écologiques des basses terres, les terres les plus fertiles, en fait, ont été accaparées depuis la colonisation espagnole, puis après par les différentes réformes libérales, etc. Donc, je ne vais pas revenir sur la construction de ce que... Et c'est vraiment le cœur de l'ouvrage, de ce qu'est une catastrophe, parce qu'on parle de catastrophe, souvent catastrophe naturelle, mais l'objet du livre, c'est vraiment d'essayer de démontrer, et je suis loin d'être la seule, hein, combien de catastrophes ce sont des construits sociaux... sociaux naturel, hein, parce que l'événement, la menace, elle reste un événement naturel, même si on pose la question aujourd'hui avec les changements climatiques de l'ampleur. En fait, il n'y aurait selon GIEC pas plus d'ouragans, mais il serait d'autant plus intensif. Et donc, terminant ce terrain-là, j'étais dans la fin de ma rédaction de thèse, et j'ai rédigé un projet postdoctoral pour le FNRS sur les questions plutôt de résilience. Comment est-ce que des petits systèmes agraires peuvent démontrer justement, peuvent être plus résilients face à des phénomènes hydroclimatiques. Alors, figure de pro sur ces questions-là, ben, c'est Cuba. Et donc, il s'avérait pour moi intéressant d'investiguer à Cuba. Donc, je restais dans la région Centre-Amérique-Caraïbes à ce moment-là. Terrain extrêmement compliqué parce que j'ai pu vraiment prendre le pouls de la corruption locale, de la nécessité de poser un voile sur comment les choses se déroulent, évoluent localement pour pouvoir maintenir en place un régime au fait totalitaire. Ce que moi, je partais à Cuba avec une certaine forme d'idéalisme naïf. Et voilà, ce qui n'empêche que des expériences agricoles, notamment urbaines, sont en déploiement face aux pénuries, notamment. C'est se développe extrêmement fort, et notamment beaucoup d'expériences agroécologiques, c'est-à-dire qui essayent de respecter les principes écologiques dans l'agriculture. Expérience fascinante de 3 mois donc à Cuba, et puis ensuite au Mexique. De retour, en fait, en moi, en écrivant sur Cuba, et les portes m'ont été fermées. Je ne savais plus mener de terrain à Cuba. Donc, c'est ouvert la possibilité de mener des terrains aux Philippines, entre autres, en partenariat avec des collègues ici qui avaient monté des projets là-bas, avec des collègues de Namur sur des projets de coopération aussi avec lesquels je suis maintenant. Extrêmement intéressant. Là, j'ai travaillé plutôt sur toujours des petits systèmes agricoles menacés par des phénomènes hydroclimatiques comme des ouragans, encore dans un berceau chamanique, tout comme au Guatemala donc, et en travaillant de nouveau cette question de résilience, d'adaptation de ces petits systèmes agricoles. face au changement climatique, mais aussi face au changement socio-économique. Donc pour moi, c'était indissociable. On ne peut pas, par exemple, comprendre les migrations rurales aujourd'hui. On ne peut pas. L'urgence climatique est certes d'actualité, mais on est aussi, en tant qu'anthropologue, en tout ça, on est obligé d'avoir un regard focus aussi sur ce qui est en train de. Comment les choses bougent sur le plan socio-économique dans ces communautés-là. Et ce sont des urgences pour eux beaucoup plus prégnantes. Pour ces communautés-là. Et donc, parallèlement, en fait, il me semblait de plus en plus, suite à mon terrain à Cuba, de plus en plus intéressant de travailler sur les questions d'agriculture urbaine aussi, ce qui n'était pas le cas aux Philippines. Mais donc, j'ai commencé à investiguer à Bruxelles, notamment un peu en Espagne aussi, et à m'intéresser de plus en plus, donc toujours sur ce fil rouge des petits systèmes agraires, à ces questions-là, notamment en Belgique. Et aussi en France. Donc, quelles sont les résiliences? Pourquoi est-ce que des acteurs aujourd'hui se fonctionnent à contre-courant et essayent de mettre en place d'autres formes de production agricole? Et donc, on touche toujours à des questions qui étaient pour moi fondamentales dans mon travail de thèse, qui étaient ces questions de rapport à la nature. Comment est-ce que les producteurs se mettent en relation? Est-ce qu'il y a une question juste d'extraction de produits sol ou bien de mise en relation aussi? Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, en travaillant notamment sur les questions de biodynamie et autres, c'est faire émerger d'autres manières de produire. On est à contre-courant, même si aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On trouve des produits bio, certifiés bio, etc. Mais on est ici avec des producteurs qui vont plus loin, qui sont au-delà de la labellisation, qui sont vraiment dans des formes de croyances et d'attachements particuliers avec la terre. Parallèlement à ça, donc au développement de ces terrains ici en Europe, je me suis intéressée donc non seulement aux questions de transition agroécologique, comment des personnes ont envie de basculer et basculent dans leur production vers un autre type de production, ou récupèrent, parce que j'ai mené un terrain au Guatemala notamment sur ces questions-là, il me semble aussi intéressant de revenir là-bas pour ne pas avoir une vision catastrophiste. Il y a des choses qui émergent aussi dans ce pays-là, j'ai pas envie de noircir totalement le tableau. Et donc parfois, comme au Guatemala, c'est l'idée aussi d'aller parfois récupérer certaines pratiques ancestrales qui sont tout à fait d'actualité, combinées avec de nouvelles technologies. Et donc, je me suis d'autant plus intéressée à non seulement un courant de recherche qui est celui qu'on appelle de recherche action participative, donc comment, sur ces questions de transition, pas seulement agroécologique, mais aussi plus largement écologique, comment on peut, et ça fait partie, je pense, de notre métier d'anthropologue, enfin, pas je pense, j'en suis persuadée, c'est l'idée d'être impliqué, donc on ne travaille pas en solo. Oui, c'est nous-mêmes qui gardons les rênes de notre recherche, mais on est toujours en interaction avec nos informateurs, avec des personnes sur le terrain, donc c'est vraiment un métier de contact, un métier de relation, mais ce n'est pas la même chose que de construire un projet de recherche où les questions émergent elles-mêmes du terrain. Et donc, en fait, c'est comme ça que, pour moi, un nouveau basculement s'est opéré. C'est qu'en réalisant mes premières investigations à Bruxelles sur le maraîchage, sur petite surface, dans la périphérie de la ville, etc., avec toujours ces questions de comment est-ce qu'on peut repenser, comment des acteurs, je dis, repensent nos systèmes alimentaires, un acteur de terrain m'a interpellé en disant « Mais en fait, j'ai envie de monter un projet de recherche parce que nous, on a plein de questions qui émergent, mais on est incapable de mener les bouts. » D'aller au bout, d'aller au bout de cette curiosité-là. Et donc, il m'interpellait parce que, voilà, en ayant discuté avec moi, il me dit « Est-ce que tu veux pas mener conduire une recherche là-dessus ?» Donc, moi, j'ai dit « Si tu veux, on monte un projet de recherche. » C'était tout à fait dans mes cordes, j'avais déjà fait ça. Mais j'avais pas pris conscience à l'époque, en rédigeant ce projet de recherche, ça allait être une possibilité pour moi forte, en fait, de m'impliquer beaucoup plus dans les réseaux locaux et d'être impliquée. C'est-à-dire aujourd'hui, j'en paye les conséquences de manière positive, c'est que c'est la société civile qui m'interpelle et qui me demande de venir interagir dans des événements qui sont au-delà du cénacle académique. Et donc pour moi, c'est vraiment ce qui m'est devenu cher, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui émergeait déjà avec mon travail de terrain en Guatemala. C'est non seulement, j'ai une prétention à l'excellence scientifique, j'ai envie, je pense, de pouvoir débattre, ça fait partie de mes plaisirs, de mes joies intellectuelles, de débattre avec mes pairs, anthropologues ou d'autres disciplines, parce que c'est aussi quelque chose qui m'est cher dans mes recherches, c'est non seulement c'est de dialoguer avec des collègues d'autres disciplines, mais aussi de me laisser interpeller, bousculer par les gens du terrain. Et ça veut dire accepter que des gens du terrain viennent dire « Mais en fait, tes questions de recherche, le petit questionnaire tu nous soumets pour un exemple de travail avec les maraîchers que j'avais, où je leur avais demandé tous les jours de noter quelles étaient leurs impressions physiques, leurs ressentis dans leur travail, etc. Puis en fait, ils m'ont envoyé bouler, parce que clairement, c'est trop compliqué quand on lance le métier, c'était beaucoup trop. Et donc, c'est dialoguer avec eux, c'est quoi les données, c'est quoi dont vous avez besoin après pour pouvoir tester votre activité, pour pouvoir voir comment vous améliorer, etc. Donc, parallèlement à des données agronomiques qui se récoltaient, parallèlement à des données économiques. Donc, comment, voilà, c'est vraiment laisser place au dialogue, à la construction, à cette fameuse co-construction sur le terrain de données.
C'est aussi une forme de négocier une sorte de pertinence. Enfin, quand je t'entendais parler, et je suppose que Bénédicte aussi a eu ça, ça nous renvoie à notre propre terrain. C'est le fait de se dire que les acteurs de terrain sont dans leur propre vie, et nous, on débarque, et quelque part, ils acceptent quelque part de nous ouvrir une part d'intimité et d'ouvrir des portes de leur quotidien où ils ont leur propre temporalité, leurs propres obligations. Et je remarque en tout cas que moi, parfois, il m'envoie bouler, si je peux dire ça comme ça gentiment, en disant, c'est ce que tu me dis là, enfin, je vois pas pourquoi tu me poses la question, c'est pas pertinent là tout de suite, ou c'est pas le bon moment, ou même pourquoi tu me poses la question, pourquoi tu es là à me dire ça. Et j'ai l'impression que c'est à la fois ce que tu disais, et à la fois aussi une sorte de négociation de la pertinence, de lui dire, pour moi, voilà, c'est pertinent dans ma recherche, parce que voilà mon but, voilà mon cadre, voilà vers où je vais. Donc ça nous force aussi à une forme d'explicitation que je trouve essentielle dans notre métier. Et ça aussi, c'est quelque part une sorte de négociation où il y a ce fameux pacte qui commence à naître et qui est crucial. Voilà, désolée, j'ai interrompu le fil de ton histoire.
Sur mon terrain, ça se joue autrement. Moi, c'est vraiment obtenir le droit devenir suffisamment intéressante pour pouvoir mener une conversation avec les gens, en fait. Ils n'ont pas le temps. Ils sont là pour de très bonnes raisons, qui sont des raisons de réseautage, de mise en contact, d'information, etc. Enfin, ils ont des choses à faire. Ils ont des choses qui les préoccupent, qui sont des choses à leurs yeux extrêmement importantes. Et du coup, les trois premiers mois de mon terrain, ça a été uniquement comprendre comment, dans une conversation classique, je pouvais interagir de manière suffisamment intéressante pour eux, pour qu'ils me répondent. Mmh. Avant même de pouvoir me dire « j'ai des questions de recherche ».
Tout à fait, mais vous pointez des éléments, cette histoire des négociations, c'est pas seulement la négociation d'entrer sur le terrain, c'est une chose d'entrer sur le terrain, mais après c'est comment pouvoir y rester. Et puis cette question du temps dont tu parles là, c'est effectivement fondamental. Moi, travailler avec des personnes qui gagnent parfois moins qu'un jobiste, faut vraiment réaliser, toutes les personnes qui travaillent la terre aujourd'hui, partout dans le monde, il y a une certaine servitude de ce travail-là, et on est vraiment dans une inégalité énorme, mais ce temps, effectivement, c'est comment faire en sorte, nous, ça a été vraiment le challenge, dis-nous, parce que au-delà de moi, mon intérêt pour les recherches d'action participative, c'est en équipe qu'on a travaillé, en équipe, on est vraiment une équipe avec des collègues de l'ULB, des collègues, des gens de terrain, etc., qui étaient vraiment partie prenante des collègues de ces équipes de recherche, mais c'est comment faire en sorte que ce temps, on peut optimiser en proposant, en tout cas dans mon cas, c'était comment proposer des espaces de réflexion qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas le temps, mais qui leur puissent leur être intéressants après. Donc comment proposer des méthodologies de collecte, entre guillemets, de données, parce qu'on a besoin en tant que chercheur, mais de temps de quels ils ressortent avec une plus-value déjà, en disant, je pouvais leur aider, évidemment, on fera des rapports, je ferai des papiers, je reviendrai avec plein de choses. Mais eux, ce qui leur intéresse, c'est déjà dans le temps passé à ce moment-là. Et donc là, c'était vraiment avec un souci, parce que quand on mobilise une journée, on a fait ça 4 reprises sur des fameuses méthodes d'analyse en groupe, une journée, 15 personnes, et qui donc ils ne gagnent rien, parce que ce sont des indépendants, et on défraye pour leur transport, et on leur offre à nous. Donc c'est vraiment un don de soi, là. Hein. Donc c'est comment vraiment penser à des processus, sinon on a des gens avec qui on collabore depuis le début jusqu'à la fin de la recherche qui sont juste fâchés, on se les met à dos. Donc c'est vraiment, ça demande beaucoup de connaître bien le contexte, d'être dans vraiment une forme de subtilité dans les relations humaines fondamentales. Et puis nous aussi, il y avait plusieurs objectifs de création de délivrables. Donc ce que j'entends par là, c'est ce qu'on appelle dans la recherche des délivrables, c'est des produits de la recherche. Donc très souvent dans les recherches, Bah, on attend des articles, des papiers, des chapitres d'ouvrage, des monographies éventuellement, si on a pu faire un long terrain. Mais au-delà de ça, c'est aussi, tiens, est-ce qu'il n'est pas possible de produire d'autres choses? Et là-dessus, ça, je pense que j'ai cru à un moment que ça allait me déforcer dans ce qu'on appelle mon CV en tant que chercheur, que de vulgariser, de faire des articles destinés à d'autres publics, aller à des conférences, ok, c'est dire, ben non, il y a du temps que je consacre, je vais à moins de conférences académiques, mais je consacre pour aller à d'autres types de conférences, prendre la parole, etc. On crée des délivrables, j'ai travaillé avec mes collègues à des créations de boussoles de viabilité pour les maraîchers. Pourtant, ça, je sais pas, ni ça sur un CV. Mais mon Dieu, qu'est-ce que moi, en tout cas, ça me donne une place qui est juste là où moi, je travaille avec le milieu avec, dans lequel je travaille. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que je sens qu'il y a une ouverture beau que je soupçonne. Je ne soupçonnais pas aussi importante, ce serait un peu grossir les traits, mais en tout cas, il y a une ouverture dans le milieu de la recherche à ce que ça puisse se faire. Et je pense qu'on gagne en légitimité par rapport à nos acteurs de terrain, qui souvent ont tendance à dire oui, mais bon, vous, dans votre tour d'ivoire, les universitaires. Et je pense que les universitaires, oui, on a ce besoin de s'isoler, de faire parfois les ermites pour écrire, pour monter en puissance théorique, analytique, c'est nécessaire, mais on a le devoir de redescendre. Et ça, pour moi, ça fait partie de mes croyances à moi, hein, c'est mes pratiques, c'est ce dont moi j'aligne. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'université est prête à comprendre que dans ce fameux triptyque recherche, enseignement et service à la société civile, bah, on peut le décliner de plein de façons, cette question de service à la société civile. Mais là-dessus, je vais digresser, mais j'ai une amie qui est journaliste à La Première et qui me disait le nombre de fois qu'elle sollicite des femmes chercheurs ou des académiques pour poser des questions sur des sujets d'actualité et qu'on leur dit non, 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 que les femmes leur disent non.
Oui, la même chose.
Non seulement parce qu'on n'a pas le temps en tant qu'académique, donc c'est pas genré, mais qu'en plus, je pense qu'en tant que femme, on bat le retrait en disant que voilà, on a cette question souvent de légitimité dans notre. Est-ce qu'on ose prendre la parole publiquement dehors que dans notre cénacle académique? Et je pense que ça fait partie de nos missions aussi que de prendre la parole et notre responsabilité en tant que femme de prendre cette parole et cette place.
Complètement.
Déjà dans le cénacle académique, c'est pas si facile. Déjà dans le cénacle académique.
Mais si en plus on l'a avec nous comme allié.
Oui.
Mais c'est vrai que ça, c'est des réflexions qu'on entend hein, dans les fameux couloirs quand on se croise et autres et qu'on en discute. C'est vrai que quand un journaliste approche un homme et une femme, c'est vrai que les réactions sont très différentes. Et tu as raison sur le fait que c'est intéressant, même si parfois on n'est pas le plus pertinent et que c'est un point annexe de notre recherche, on a quand même toute une série de données, de connaissances, à la fois théoriques et de terrain, qui permettent de discuter ça. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Bénédicte, hors micro, c'est tout un exercice parfois périlleux que de passer de ce mode de pensée qu'on entraîne pendant des mois, et avec cet isolement aussi, qu'on entraîne avec cette acuité scientifique et tous ces débats théoriques qui se bousculent dans la tête. C'est vraiment un exercice tout à fait particulier que de rebasculer de l'autre côté et de se dire, je dois fournir une information claire, nette, mais qui reste précise et surtout qui n'ouvre pas le flanc à d'autres débats ailleurs dans le monde scientifique. Donc c'est très particulier et ça s'entraîne en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pousser les gens à dire oui, la première interview sera peut-être pas géniale, ce sera peut-être pas une catastrophe, mais ce sera peut-être pas génial. Il y aura des formulations qui sont un petit peu maladroites. Et au fur et à mesure, comme dans les colloques scientifiques, on apprend à dire les choses, on apprend comment se positionner, comment les dire. Et c'est vrai que s'il y a des gens qui nous écoutent sur le podcast au niveau simplement communication scientifique, les inviter à s'ouvrir. Et c'est comme ça aussi, quelque part, qu'on peut récolter des fonds, intéresser le public. C'est tout un système qui structurellement paraît très scindé, mais en fait qui ne l'est pas. Et ta recherche est le parfait exemple de ça, en fait. Tes derniers projets sur les semences ou Woody Molenbeek, etc., prouvent que c'est pas qu'une question entre deux, c'est une question de... Ce sont des formes qu'on a l'impression, d'un côté le scientifique, d'un côté le public, je vais dire ça comme ça, le civil, mais en fait pas du tout, c'est des choses qui sont interconnectées, interreliées, et le chercheur peut justement, lui, se balader d'un côté et de l'autre, et servir à faire des ponts qui sont essentiels à notre société, et ça, on en reviendra.
Oui, et puis sur des sujets, moi, travaillant sur les questions de transition, si on n'est pas de mèche avec des acteurs qui travaillent sur ces questions-là, fait, on n'a pas nos informateurs. Donc la question, c'est comment pouvoir créer de l'intéressement sur nos recherches, parce que eux vont pouvoir en récolter quelque chose. C'est une histoire de don contre don, tout le temps là-dedans.
Moi, j'ai du coup une question beaucoup plus... Je vais revenir au livre. Oui, moi, quand j'ai eu fini ton chapitre 2, où tu parles de la situation agricole et... Alors, j'aime beaucoup la manière dont ce livre est construit, parce que c'est un peu une de mes obsessions, cette manière de tourner là-dessus. Tout autour, et à chaque fois de monter en puissance, mais toujours en tournant autour de la même chose et en lui donnant à chaque fois un nouveau relief. Je trouve ça très, très intéressant. Et donc, dans le chapitre 2, tu parles beaucoup de la question des sols, de la forestation, de l'agriculture. Et quand on le finit, moi, j'étais un peu désolée pour ces gens, que j'avais l'impression d'être pris dans des processus qui ne pouvaient que continuer à se produire et à se reproduire tels qu'ils sont, avec de plus en plus de pesticides, des sols qui s'érodent toujours plus, pas vraiment le temps de produire une autre agriculture, une très grande précarité organisée, une ouverture néolibérale au marché libéral, un espèce de... j'étais vraiment très triste pour eux. Presque autant que pour les cafétales de Clément au Mexique, vraiment. Et donc, est-ce que quand tu es retournée au Guatemala, tu as vu les possibilités d'enrayer cette espèce de cycle imbrisable ? Est-ce qu'ils ont pu se donner les moyens de reprendre le pouvoir sur ces questions-là ? Est-ce que ce n'est pas la question ?
Non, c'est une magnifique question. Je pense que ce qui est intéressant de comprendre... je ne sais pas si j'en parle déjà, je pense, au début de l'ouvrage, mais sur les questions... Donc, au niveau du contexte de ce pays, c'est un pays qui a connu 36 ans de guerre civile. Ouais. Des années de guerre civile qui ont vraiment, en termes juridiques, donné lieu à un génocide, la population maya, donc des populations indigènes locales, et donc qui a fortement disloqué, démantelé l'intelligentsia locale, les communautés, parce que qui était essentiellement recherché, c'était les leaders qui, eux, avaient envie de s'opposer. Donc, il faut savoir que la guerre civile, on parle ici d'agriculture, donc ta question émergeait de l'agriculture, elle a émergé essentiellement parce qu'il y avait des fortes inégalités au niveau de la répartition des terres. Aujourd'hui encore, c'est un des pays les plus inégalitaires au niveau des répartitions des terres, par part d'habitants, donc. Donc ça, c'est une première donne. Une deuxième, c'est qu'on est dans un pays qui a, culturellement, je parlais des Mayas, mais il y a 21 ethnies Mayas, il y en a deux autres, les Garifuna et les Chinka, 21 ethnies qui ont chacune une langue propre, vernaculaire. C'est-à-dire que d'une communauté à l'autre, donc moi je travaille à San Martín, Zacatepeques, la communauté de San Juan Ustuncalco, qui est juste vraiment à la municipalité voisine, c'est un dialecte même dérivé encore. Donc parfois je comprenais pas toujours certains termes, etc. Et donc vous imaginez à quelques kilomètres quand on parle, on passe du mam au quechi, etc. Ce sont des langues qui ne se comprennent pas. Et donc il y a vraiment une grande difficulté d'unité politique locale. Donc là si je monte à un niveau de pouvoir, d'organisation politique, il y a eu des échecs, des tentatives très vite échouées de représentation, de tentatives de candidats à des élections, que ce soit régionales, mais évidemment nationales. Au niveau municipal, ça se joue sur d'autres niveaux. Mais... Donc la difficulté d'arriver à un leadership reconnu, légitimé, entre les populations indigènes. Voilà, ça c'est pour moi deux facteurs très importants à prendre en compte sur cette difficulté de comment donner un autre tournant en fait à notamment ces pratiques agricoles là. Alors par contre, c'est vrai que je tire beaucoup les fils de comment ces sols s'appauvrissent, comment ces sols sont dopés par des agrochimiques. Hein. On est vraiment dans une politique, si chez nous on a de la chance d'avoir des politiques de contrôle de notre agriculture sur les produits qui sont pas labellisés bio notamment. Là, on est vraiment dans des surdoses. Il faut voir la taille de certains légumes. Voilà, c'est du survégétal, hein. C'est pas du surhumain, c'est du sur... On est dans des proportions qui affaiblissent le sol, mais qui certainement, à court terme, voire moyen terme, affaiblissent les corps humains. Alors, la difficulté, c'est que pour régénérer les sols, quand on veut justement être dans une transition agroécologique, ben, ça prend 4-5 ans. Il faut les laisser, il y a énormément de travail. Il faut les laisser en jachère, il faut les réalimenter, etc.
Et sur place, oui, il y a des gens qui sont là. Des aînés, donc des aînés des communautés, sont là pour rappeler, mais il y a telle et telle technique qui existait qui ne coûte rien, etc. etc.
Mmh. Tu bon, parlais les... comment dire, du sang, l'engrais forestier.
Oui, tout à fait.
Qu'ils allaient chercher justement dans les montagnes et autres. Mais tu parles du problème de la déforestation, et ça, je trouve que c'est le point fort de ton ouvrage. C'est qu'à chaque fois que tu tires un fil, tu rappelles que d'autres fils sont emmêlés, mm-hmm. d'autres contextes. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, parce que d'un côté, effectivement, tu as cette situation désolante, en fait, mm-hmm. où tu te dis ils ont mis le doigt dans un engrenage impossible. Et d'un autre côté, on sent qu'ils ne sont pas dupes du tout. Et ça, je trouve aussi que c'est très fort que tu arrives à le faire passer. Tu apportes de la complexité. On sort des chapitres un petit peu perplexes en se disant... Mm-hmm. Et d'un côté, tu parles de certains acteurs de terrain qui disent que ça rend malade. Tu parlais que ça abîme les corps, mais mmh. ils en sont parfaitement conscients.
Tout à fait.
Ils voient le changement dans la nature, ils voient le changement dans leur corps, ils voient le changement dans la santé de leurs enfants, dans la santé de tous. Tu mmh. disais même que beaucoup étaient centenaires, en fait. Mmh. Et donc, tu parles de ce changement-là, ces sortes de résistances, mais parfois juste résistances déjà de discours qui sont essentielles. Mmh. Et tu parles aussi de ce retour sur les terres, de ces personnes qui vont aux États-Unis, qui émigrent et puis qui reviennent et qui rachètent des terres parce que la terre, c'est un lien crucial. Et donc, je trouve que ça rajoute en complexité. Et on voit que tu disais justement que c'est à certains moments, oui, il y a cette grande machinerie extérieure qui impose toute une série de choses au niveau économique, au niveau politique et autres. Mais il y a des formes de... Pas de résistance, c'est pas le bon terme. J'arrive pas à trouver un bon terme. Mais il y a plus localement à dire... que simplement de voir ce côté écrasant. Il est là, il est présent, il faut en parler, mm-hmm. mais il y a plus que ça. Et je trouve que c'est un des points forts, justement, de tes chapitres, c'est qu'à chaque fois, tu ne dépeins pas juste une catastrophe, un engrenage énorme. Il est là, il est présent, mais t'apportes d'autres éclairages en disant voilà ce qui se passe localement, voilà comment les gens le voient localement, voilà comment ils le vivent, voilà comment même ils l'expliquent. Et c'est d'autant plus fort avec, justement, Stan, c'est qu'il y a tous ces discours qui s'entremêlent, et le discours qui en ressort finalement chez tes acteurs de terrain.
Tout à fait. Et pour croiser vos deux questions, je pense que c'est vraiment important que je remette le doigt sur surtout des communautés, surtout des initiatives locales qui tentent donc de mettre le doigt dans l'engrenage et d'arrêter en fait cette cycle effréné, infernal. Tenter de produire davantage, etc., etc. Donc il y a vraiment, et au-delà de ça, c'est vraiment des collectifs qui vont notamment se battre contre l'accaparement de terre pour des mines à ciel ouvert. C'est vraiment une région qui est investie de mines, et donc ce sont des propriétés terriens, enfin des grands propriétaires terriens qui achètent. C'est plus qu'une mine, hein. Il faut savoir que c'est des hectares, c'est des centaines d'hectares, et notamment les sources d'eau. Donc il faut imaginer que les sources d'eau sont ensuite polluées, c'est ces mêmes sources d'eau qui alimentent les champs après. Donc on est vraiment dans. Mais il y a de la résistance locale. Mm-hmm. Mais il y a tellement de violence contre ces communautés-là que on recense des morts régulièrement dans ces leaders politiques là. Et alors il y a beaucoup de choses qui émergent micro localement, et ça c'est vraiment intéressant de voir aussi, c'est comment justement la difficulté de se constituer en grand collectif, parce que les questions de langue et de culture différentes, parce que les questions de transport aussi parfois compliquées de communauté à l'autre. Vraiment, on est dans des régions montagneuses accidentées, on va pas d'un bout, enfin, voilà, à vol d'oiseau, des communautés peuvent être très proches, mais parfois on est plus on est plus rapide à pied qu'en voiture. Et donc il y a une communauté il y a des micro communautés qui s'activent et qui essaient de bouger les choses sur localement, quoi. Comment changer le cours des choses dans le développement communautaire, revaloriser l'intérêt, recréer du travail, recréer localement, en fait. Parce que tout est en partance, tout est vers une fuite vers l'ailleurs, en fait. C'est là, la réussite, c'est ailleurs, en fait. C'est à la vie, la réussite, c'est ailleurs, c'est aux États-Unis, c'est au Mexique. C'est de là que viennent les sous. L'agriculture, c'est vraiment devenu une agriculture de subsistance, tentative de me vendre dans des marchés, mais dont le cours des produits évolue tellement que... aller vendre sa patate aux frontières du Honduras, mais finalement revenir avec aucun gain parce que le coût en camion de transport et de la main-d'œuvre, j'avais fait des calculs, je pense que ça apparaît à un moment dans le bouquin, j'avais fait des calculs avec un ami agriculteur. J'avais calculé le nombre de tous les produits qu'il mettait, les semences qu'il avait achetées, le coût en camion pour aller vendre, tout.
Et en fait, malheureusement, il n'avait jamais réalisé qu'il était à perte. Si calculait en plus sa main d'œuvre.
Tu disais 2000 et il vendait 800.
Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est juste c'est une prise de conscience qui se fait. Et j'aimais bien ce que tu disais, ces gens ne sont absolument pas naïfs. Je disais là, il n'avait pas fait le calcul, mais c'est bien, c'est une façon de faire rentrer, c'est une façon de rester actif aussi, parfois pour ne pas se sentir inutile, juste inutile socialement. Mais donc il y a une valorisation du sol. Et là-dessus, moi, je pointe du doigt fortement l'État. On n'est vraiment pas du tout dans un État protectionniste. Alors là, on arrive là-bas. Alors, c'est risible par rapport à mes entrées sur le terrain à Cuba ou au Guatemala. Au Guatemala, je faisais des allers-retours incessants. On ne m'a jamais la posé la question de ce que je faisais. J'aurais pu être une anthropologue tout à fait mal intentionnée. On n'a jamais regardé ni vu.
Et pourtant, vu leur histoire, il y aurait de quoi être frileux. Tu parlais de l'entrée sur le terrain et de tout ce background historique qui est très lourd au niveau des anthropologues qui ont
été présents. Oui, mais plus qui mettrait plus en danger et en péril les communautés locales. En fait, l'État, ils s'en foutent complètement. Oui, tant que moi, je viens et que je consomme sur place et que je crée, en fait, éventuellement, que je fasse vivre le pays, ça marche. Mais non, c'est vrai. Parce que, comme le disait Maggie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec la fameuse guérilla, à la guerre, cette guerre interne de 36 années, qui s'est fait avant tout disséminer, ce sont les intellectuels, anthropologues, penseurs, critiques du social, en fait. Donc c'est... Et en plus de ça, bien sûr, les leaders communautaires qui avaient un peu des projets, notamment de réforme agraire, etc. Mais notamment, donc parallèlement à la dissémination de ces populations, de ces intellectuels, penseurs, critiques du pays et des développements de ce pays-là à ces moments-là, il y a eu vraiment une entrée en scène d'anthropologues qui travaillaient notamment pour la CIA américaine, qui a été historiquement associée à cette guerre civile et qui a pris parti de l'État et donc qui a participé, qui s'est sali main du sang. Localement. Donc, il y a des anthropologues qui, par leurs infiltrations locales, par la connaissance qu'ils avaient parfois des langues, pouvaient donner des informations cruciales sur notamment les déplacements de la guérilla. Rôle délicat.
Tu disais aussi qu'en Belgique, ces agriculteurs, ces maraîchers, étaient très mal payés, enfin, gagnaient très très mal leur vie. Est-ce qu'à À niveau collectif, on ne devrait pas s'interroger sur le fait que tout ce travail de la terre qui assure notre subsistance globale et pas uniquement leur subsistance reste à ce point-là dévalorisé au moins financièrement, voire même symboliquement. Enfin...
En tout cas, dévalorisé dans les échelles, on pourrait dire, de production aux premières bases, on pourrait dire. Parce que quand on voit finalement, plus on monte dans le système et plus finalement les enjeux montent aussi, je trouve ça très intriguant en fait de voir que, alors que la base est finalement s'écroule sous le poids de tout ce qu'il y a au-dessus, ces personnes sont dans une précarité, une vulnérabilité assez alarmante en fait. Et pourtant, ce système de l'agroalimentaire est le plus gros pôle de commerce qu'on puisse voir ici. Dans notre système global, enfin, il y a de quoi se poser des questions sur, on pourrait dire, les différences d'échelle et les différences de niveau et d'argent qui rentrent dans ces niveaux.
Donc on est vraiment touche là à ces métiers primaires en fait de production primaire, en général sont bien sous-payés par rapport au secteur tertiaire, donc ça c'est inévitable. Enfin, c'est une lecture qu'on peut avoir partout dans la société, mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre système européen de la fameuse PAC, la politique agricole commune, a engrangé un système au niveau de notre production alimentaire qui est de dire, en fait, aujourd'hui, ce qui est rentable, ceux qui ont droit à des subsides, c'est ceux qui ont des grandes superficies de terre. Et donc, ceux qui sont des managers, ça devient du managing. Quoi. Et donc... toute personne qui se lance sur des petites superficies avec que se donnant pour règle non seulement d'être dans du bio mais plus que du bio etc. Eux en fait c'est il y a très peu de façon de réussir si ce n'est de se lancer eux-mêmes dans l'achat-vente ce qu'on appelle. Donc ça veut dire c'est des systèmes où eux ne sont pas que dans leur production mais aussi achètent chez des grossistes bio et revendent également que ce soit dans leur panier qu'ils diffusent ou dans les marchés etc. Mais donc il y a vraiment c'est intéressant de pointer du doigt que depuis les années 80, on a perdu plus de 60% des exploitations en Belgique des exploitations agricoles. Hein. Mmh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens quittent le métier.
Qui a l'importation.
Qui a l'importation, mais qui a aussi des exploitants, des petits exploitants qui deviennent de plus en plus grands. Ou des grands exploitants qui deviennent plutôt des grands qui deviennent très très grands, en fait. C'est vraiment on est dans la finance ici, on a un autre niveau. Il faut savoir que de nombreux investisseurs hollandais et belges investissent sur les terres roumaines aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris où était le nerf de la guerre. Donc, et là, je crois qu'on perd parfois le fil, on est tellement distancié par rapport au milieu de production agricole que c'est notre subsistance de base. Aujourd'hui, il ne nous faut pas deux jours pour si tous les systèmes, si tous les moyens de transport, avions, camions, trains sont à l'arrêt pendant deux jours, Bruxelles n'est plus alimentée. Non, il faut que pendant deux jours, il n'y a plus de transport, il nous faudra 4-5 jours pour qu'il n'y ait plus d'approvisionnement. Merci. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Donc, ouais, je pense que ces lectures catastrophistes sont intéressantes, et là je refais un parallèle avec mon ouvrage, ces questions de prophétiques, hein, on voit plus en plus de bouquins émerger sur les questions de collapsologie, etc. Dans la philosophie maya, l'idée de prophétiser une catastrophe, c'est l'idée de pouvoir mettre en place, engranger des solutions, et de trouver d'être là-dedans. Et donc c'est pas seulement... dans une lecture que je vais caricaturer, mais qui est quand même celle-là, pour des pantoutes qui s'évangélisent, de se dire, ben voilà, on est dans une... c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, et nous sommes dans une forme de résignation de ce qui peut arriver. Donc, c'est peut être une attitude tout à fait comme celle-là. Ou alors, justement, déclencheur de nouvelles façons d'innovation socio-économique.
Nous avons une mise à l'épreuve, et passons cette épreuve.
Voilà. Et aujourd'hui, les grandes questions, mais c'est comment l'Europe va justement se situer par rapport à la PAC? Comment est-ce qu'on va pouvoir renverser la balance ou pas? Est-ce qu'il y a un gros enjeu, parce que ça fait partie de la nouvelle, enfin en tout cas de ce gouvernement européen ici, c'est la révision de la PAC. Mm-hmm. Et notamment quand je parlais de questions de transition, mais ce fameux Green Deal européen dont on n'arrête pas de parler, l'idée c'est avant tout de mettre en place des innovations techniques. Et c'est nécessaire, évidemment, mais c'est aussi réfléchir comment est-ce que socialement, humainement, les choses sont acceptables, qu'est-ce sur quoi on est prêt à renoncer, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour pouvoir, que ce soit sur les questions de système alimentaire, mais questions de transport, il y a plein de choses à faire émerger.
Tout à fait. Et c'est amusant parce que là directement, t'entends parler du côté technique d'un côté et du côté politique aussi qui fait des diagnostics, etc. Et le côté social et qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Je trouve qu'en fait, et c'est peut-être intéressant de revenir sur le point clé de ton ouvrage et qui est généralement conseillé aux étudiants qui travaillent sur les questions de nature et de catastrophe, sur le fait que, pardon, que en fait ton ouvrage dépeint... Et c'est pour ça le titre, je trouve très bien trouvé, de l'ouragan à la catastrophe. C'est une montre qui a une construction même de cette catégorie de catastrophe. D'abord avec toute une série de critères qualitatifs en disant à partir de X morts, à partir de X dégâts, à partir de X argent perdu, on peut commencer à parler de catastrophe, de grande catastrophe. Donc on passe d'un phénomène météorologique, parce que voilà, naturel, tu amènes à repenser aussi ces catégories qui sont chères à l'anthropologie, hein, le débat nature-culture, on ne va pas rentrer dedans, mais je conseille vraiment d'aller se renseigner, de taper une débat nature-culture-anthropologie sur le net pour se rendre compte de à quel point c'est un débat qui nous traverse. Donc tu passes de ce phénomène météorologique à la notion d'événement, qu'on voit clairement tout au long de la deuxième partie de ton ouvrage. Mais dans la première partie, tu t'intéresses à la construction de la catégorie. Et tu ne t'arrêtes pas à cette simple catégorie politique, géographique ou historique. Et ça, c'est le point clé aussi de ton ouvrage, c'est que tu ne restes pas cantonné à une seule discipline. Mm-hmm. Tu amènes différents éclairages. Et ensuite, tu passes, et de manière tout à fait fluide et très claire, au fait, mais c'est aussi des paroles. La catastrophe, c'est catastrophe au sens comme on l'entend. C'est une catastrophe quand on s'écrit « c'est une catastrophe, j'ai été inondée ». Mais tu rappelles à quel point les personnes s'approprient aussi ce phénomène et on parle en termes de catastrophe et comment ça se fait, comment ça se déploie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de ce fait-là de pointer ton ouvrage sur cette qualité-là qui est de nous amener à réfléchir comment est-ce qu'on construit une catastrophe, comment est-ce que même on réfléchit en termes et qu'est-ce que ça nous permet de dire? Et tu parlais tout à l'heure de processus. Mmh. Et après, dans la deuxième partie, tu rentres dans l'explicitation de ce processus. Maintenant qu'il y a cette catégorie qui a été placée, qui a été discutée, comment est-ce qu'on peut sortir de juste le diagnostic et réfléchir ça en fonction de du contexte historique qui a amené que. Tu parlais des montagnes engorgées, et d'ailleurs l'eau est très présente tout au long de ton ouvrage, de cet engorgement, de cette déforestation, des problèmes agricoles, de cette pression démographique qui fait qu'ils construisent un petit peu partout, du manque en fait de rassemblement, on pourrait dire, derrière des politiques qui font que finalement ben, on bidouille, on bricole. Et tu montres tout ça en fait à partir simplement de... On a le diagnostic catastrophe. Comment est-ce que les gens vivent ça au quotidien et comment en fait ça traverse la société historiquement, économiquement, politiquement. Et je trouve que là, tu arrives à nous plonger dedans avec, comme disait Bénédicte, avec dans chaque chapitre cette montée en complexité. Tu repars de la base avec des apports historiques que je trouve d'ailleurs c'est un très bon ouvrage si les gens vont au Guatemala. Voilà, historiquement, tu replaces les choses à chaque fois et tu montes en puissance et en complexité systématiquement. Et je trouve que c'est très fort. Mais par contre, ma petite question, là, voilà. Nourrir les montagnes, j'ai des idées, mais j'aimerais bien avoir ton idée sur le nourrir les montagnes.
Je sentais que la question allait par là. Donc, effectivement, il y a toute une première partie qui s'attarde sur dans la filiation d'un courant qui est celui de l'écologie politique. Donc pour moi, qui est un courant qui m'est cher, quand j'ai découvert les travaux de Martínez Allier ou autre, c'est vraiment ce questionnement comment les inégalités socio-économiques engrangent des inégalités face à des événements notamment naturels. Donc il y a vraiment quelque chose qui se tient là, et en plus par des personnes qui ont des répercussions de phénomènes hydroclimatiques qui sont en lien avec les changements climatiques. Or, ce sont des personnes qui produisent le moins de CO2. Donc, on est vraiment dans un cercle un peu infernal. Mais alors, là, ce qui s'est passé, quand moi, j'ai déconstruit tout ce public, ce processus, etc., c'est ce qui m'a... Vraiment, je me suis attardée à tous ces éléments matériels de la catastrophe. C'était l'entrée... Pour moi, c'était une phase d'entrée sur mon terrain. Du moins, ça était plus qu'une entrée. Ça a mis, quand même, je pense, au moins un an pour comprendre qu'en fait, j'étais bien nulle part dans les entendements propres sur le terrain. J'avais déconstruit tout un machin sur lequel personne ne contestait. Je m'alignais dans les travaux des disaster studies, pas mal de géographes, cette question de cette articulation, la menace corrélée à des vulnérabilités peut donner ou pas une catastrophe. Donc, on est vraiment dans la déconstruction processuelle de l'événement. Mais en fait, il a fallu du temps pour que mon fronton puisse enfin entendre ce que probablement était déjà dit depuis le début par mes informateurs, mes amis locaux, c'était que cette catastrophe, il y avait certes des signes matériels, mais il y avait aussi de nombreux éléments qui témoignaient d'un affaiblissement du lien des Tinecos, donc des habitants de Saint-Martin, avec leur environnement naturel, que ce soit les montagnes, que ce soit la pluie, essentiellement le vent, etc. Et donc là, j'ai ouvert tout un volet. Moi qui croyais avoir fermé le volet sur les questions de religiosité, mais en fait, il s'est ouvert à moi de manière flagrante, dans le sens où, pour eux, il était évident, certes, tout ce que je décrivais, la déforestation, l'usage intensif des sols, blablabla. Oui, mais ben oui, ils acquiesçaient, tout à fait, on y est, c'est bon. Mais j'étais bien loin du compte d'avoir compris en leurs termes pourquoi cette catastrophe avait eu lieu. Et donc, c'est là que je suis rentrée. Donc, j'allais souvent au rituel, que ce soit les pentecôtistes. Donc, moi, j'avais pris le parti dès le départ. Au départ, je me cachais des pentecôtistes quand j'allais aux célébrations catholiques. Je ne disais jamais que j'allais voir les chamans parce qu'en fait, je me disais que ça allait froisser, comme tout le monde qui discréditait les chamans, que ça allait froisser les susceptibilités des uns ou des autres. Et puis, à un moment, j'ai lâché les brides en disant « Mais voilà, moi, je suis l'occidentale de service. Vous avez compris. Voilà, j'ai partout. » Ce qui, en fait... à libérer la parole de tout le monde, dans le sens où les évangéliques venaient vers moi en me disant « Ah, mais toi aussi, tu vas les voir, etc. etc. » Donc moi, ma curiosité était de comprendre, tiens, cette façon d'écrire Stan comme en fait un lien fragilisé de ces hommes, de cet inécos avec leur environnement, parce qu'en fait, il n'y avait plus suffisamment de rituels. Il y a un manque de rituels qui permettait de maintenir ces liens avec des entités de protection, en fait. Donc de protéger ces entités qui allaient les protéger. Et ben pour eux, c'était l'élément fondamental, corrélé bien sûr avec la nécessité de reboiser, etc. Donc, nécessité de remettre en place des cérémonies, des rituels qui n'étaient pas totalement abandonnés, mais négligés selon leur dire, mais aussi parallèlement de réfléchir à des cartes de gestion de risque, etc. Donc, dans mon entendement d'occidental bien pensante, je me disais que c'était inconcevable d'être sur deux registres différents. Or, c'était total, pour eux, c'était tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a un plan spirituel qui ne peut être négligé et qui doit être articulé avec un plan matériel. Donc pour moi, c'était le cœur du démarrage et de ce vrai basculement sur mon terrain. Là, j'ai compris qu'il y avait tout un univers, en fait, une façon de s'exprimer, de respecter des éléments de la nature et qu'on soit d'obédience catholique, évangélique ou chamanique. Donc tous se retrouvent avec une jeune pentecôtiste me disait, mais c'est le sang maya qui coule dans nos veines, en laissant sous-entendre, mais en fait, c'est pas parce qu'on s'est converti qu'on arrête de croire en ces choses-là. Même si les évangéliques se plaisent à dire non, mais nous croyons qu'au créateur et non plus à la création, comme les mayas, comme les autres. En fait, il y a toujours cette nécessité, que ce soit aller bénir les sources d'eau, faire des rituels, des cérémonies évangéliques, mais aussi des rituels chamaniques. Pas le même jour, pas la même heure, on est d'accord, mais on va quand même payer un chaman pour aller le faire, parce qu'on sait bien qu'en fait c'est nécessaire. Et donc c'est vraiment cet entremêlement pour moi des deux. Et du coup, tu as parlé de Philippe Descola. Pour moi, Philippe Descola était son ouvrage par Nature et Culture. Je l'avais acheté, vaille que vaille, en bref séjour en Belgique, je l'avais ramené. Je l'ai lu, je pense, nuit et jour pour me rendre compte de ce dans quoi j'étais et de pouvoir aussi, du coup, vraiment coller à cette logique analogique dans laquelle on se retrouve ici au Guatemala. Cette ontologie analogique qui est partiellement dépeinte par Philippe Descola, mais c'est une Bible, notamment, il part de ses terrains, mais il va vraiment faire une revue littérature abondante, et donc du coup, j'ai pu aller puiser chez d'autres auteurs qui notamment faisaient référence sur l'analogisme en Amérique centrale, et donc de pouvoir m'éclairer et mieux comprendre et rentrer dans cette pensée de ces cœurs, de l'anime, de ces êtres animés, non humains.
Et c'est le point fort, parce que d'un côté, tu nous dépeins un contexte socio-économique, et d'un autre côté, tu amènes cette dimension symbolique très forte et avec des entités. Moi, comme je disais, l'eau, ça m'a marqué. À chaque fois, tu places de manière anodine, comme ça, toutes des balises. Et ton extrait que tu as lu au tout début est très représentatif. C'est que quand on lit ton extrait, on ne s'en rend pas compte. Mais on a tous les éléments clés de ta thèse, en fait. On sait que tu vas parler des insecticides, on sait que tu vas parler des chants évangéliques qui passent toute la journée. Enfin, tous les éléments sont là sans qu'on s'en soit rendu compte. Et c'est après coup, on se dit, ah oui, comme quand on lit à un moment donné, j'étais très impressionnée de dire, oui, il faut, une de tes actrices de terrain dit, je pense qu'il faut replanter des arbres, parce que ça va... amener l'eau, finalement. Ça permet que la montagne ait son eau. Et je trouvais ça très intéressant, parce que moi, en tant qu'occidentale, je me suis dit, non, c'est l'inverse, les arbres, ils boivent de l'eau. Enfin, et pourtant, non, c'est toutes ces relations à l'eau, et voilà, et c'est ça. Et finalement, tu expliques à quel point, moi, j'ai trouvé cette présence de l'eau hyper sympa. Donc, si les gens veulent lire la monographie avec... tu balises, en fait, avec toute une série d'autres choses. La montagne est très présente. Elle est tout le temps là, en fait.
C'est dans les récits, dans tout le verbatim que tu mets de la catastrophe, c'est la montagne qui fait du bruit.
Oui.
C'est le fait qu'à un moment, la montagne fasse du bruit.
C'est pas
les pierres qui s'entrechoquent, c'est la montagne qui fait du bruit, j'ai trouvé. Je me suis dit que... Enfin, j'y étais pas et je n'en sais rien, mais je me suis dit, peut-être qu'ils se sont dit que la montagne criait, en fait, à un moment, pour du vrai.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment ce cœur est animé. J'explique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a vraiment une trilogie de points animés, enfin de points de cœur, d'esprit habité dans chaque chose. Le grain de maïs à la montagne vont être. Donc il y a un respect qui se doit profondément. D'autant plus que là, Saint-Martin est situé dans un cirque montagneux, donc on est vraiment entouré de montagnes importantes. Et c'est au sommet de ces montagnes qu'on va célébrer, en tout cas dans les cultes mayas. Mais aussi, il y a plusieurs cultes évangéliques qui vont se faire au sommet des montagnes. Donc, c'est assez... et je ne sais plus quelle était ta question.
Les montagnes qui font du bruit.
Font du bruit, l'eau parle, le vent vient te dire quelque chose. On est sans cesse dans une symbolisation, en fait, et non pas à outrance, il y a quelque chose de très terre-à-terre aussi dans les pratiques. Je me vois balayer une fois chez une femme, Catalina, qui est évangélique, et je balayais, je ramassais, j'allais mettre à la poubelle
j'allais mettre à la poubelle ce que j'avais réussi à récolter de mon petit balai. Et elle me prend, mais il y a des grains de maïs. Et il y en a peut-être 3, 4 par ces minimum. Mais dans chaque grain de maïs, il y a un cœur qui palpite. Et donc, c'est cette attention au vivant, lever le chapeau quand on est au sommet de la montagne pour saluer les montagnes. Et en fait, c'est ce qui intéresse. Enfin, moi, ce qui m'a bousculé ou ce qui m'a donné un réel attachement au terrain ou une curiosité, là où je pensais avoir un peu tout passé en revue par rapport à cette dimension processuelle de la catastrophe, c'est en une fois mon entendement par la langue, et parce que les gestes, par une certaine routine, etc., que j'ai pu voir y aller plus loin. Et que j'ai pu voir tous ces gestes, tout ce qui m'était dit, mais que je n'arrivais pas à entendre. Probablement aussi parce que j'étais pas assez familière ou qu'il y avait trop de choses dont j'avais déjà à emmagasiner ou à comprendre, à décoder. Et là, soudainement, quand cet entendement m'est venu, j'ai... c'était pour moi très très fort comme moment.
Pour exemplifier ça et boucler la boucle avec Stan, c'était le moment où tu dis justement que de nombreux de tes acteurs de terrain appelaient Stan et Stan. Mm-hmm. Et je trouve ce lapsus absolument incroyable parce que tu parles justement de ce être, etc. Mm-hmm. Et là, on comprend en fait. On comprend de tout cet agencement de, bah oui, il y a le phénomène là, mais il y a l'événement et il y a le être qui traverse toute cette société. Et voilà, je trouve que c'était l'exemple qui permet de clore la boucle, en fait, en se disant, bah, voilà, c'est un lapsus auquel on aurait pu passer à côté, en fait. Hein, se dire, bah oui, ils n'ont juste pas vu Stan écrit bah voilà, c'est une déformation, c'est un petit lapsus, on pourrait passer à côté. Et en fait, bah non, on pourrait dire qu'il y a une infinité de choses à dire dans un simple petit dissonance, ou même c'est pas une dissonance pour nous en tant qu'anthropologue, on se dit tiens, il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe, on pourrait passer à côté parce que finalement ça aurait pu rester un lapsus, mais non.
Oui, c'est ça, sur les mots comme tu le dis, tu le soulignes, mais sur les sons. Et c'est vrai je pense qu'il y a un passage, mais je sais pas si dont là où justement, bah, je pense que c'est quand je rentre sur cette partie sur les questions qui touchent aux invisibles, hein, parce que c'est bien plus que du spirituel ou du religieux, on est vraiment à un autre niveau. On touche aux cosmovisions, c'est aussi l'attention au sonore, notamment comme tu parlais des chants, mais c'est aussi en t'entendant dans la montagne, ça a pétardé. C'est quoi un pétard? Un pétard, c'est pour quand on va faire une cérémonie chamanique, pour aller réveiller les esprits, on est là à les saluer, etc. Donc c'est tous des petits symboles qui font que de la nécessité de faire des ethnographies de long terrain, en fait. Et donc c'est aujourd'hui, je pense, quelque chose vraiment à préserver, j'espère, dans nos disciplines, que des financements continueront à exister pour pouvoir mener des ethnographies longues. Et mener des ethnographies longues à l'étranger, pour moi, ça a été intéressant pour me ramener ici et pouvoir décoder autrement, probablement aussi tout ce qui est système agricole, question de transition, etc. C'est cet éloignement qui me donne envie aujourd'hui d'explorer ici ce que je n'en avais pas. Vous êtes sur des terrains d'une autre nature, mais
je crois que nous, ce sera peut-être le mouvement inverse. Peut-être. On se dira, on a fait le tour ici, et pourquoi pas aller un petit peu se confronter
ailleurs.
Ailleurs.
Pourquoi pas, ou pas.
Pourquoi pas, ou pas. On voit, hein, les anthropologues sont nés là où ils sont nés, par les portes qui leur sont ouvertes et par les opportunités. Et
puis des chemins de vie.
Voilà, c'est
tout
ça.
Tout à fait. Mais du coup, j'allais proposer de clôturer en te posant notre dernière question, mais tu y as répondu de multiples fois, donc c'était... quel avenir tu vois pour l'anthropologie et quel est le rôle que les anthropologues ont à jouer dans ce monde? Mais tu l'as dit plein de fois, donc je ne sais pas si tu veux revenir dessus ou si on en reste là.
Oui, moi je dirais comme message, c'est quand on croit qu'on a compris, qu'en fait que tout commence, et se laisser se perdre, en fait. Il y a une histoire de confiance aussi. Et que je pense que ça peut, sur n'importe quel terrain, que ce soit ici, c'est aussi, tiens, si un informateur nous guide quelque part, ne pas y mettre de la résistance, oser y aller, et lever cette peur en nous, parce que c'est probablement là que c'est intéressant d'aller. Et donc tout ça, c'est se laisser ouvert aux imprévus, se laisser ouvert à l'inconnu.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité.